Eh bien, bonjour à tous, bon dimanche, Dieu vous bénisse, ça va bien?
Oui.
C'est bien, gloire à Dieu. Eh bien, nous saluons tous ceux qui viennent nous rejoindre sur Internet ce matin, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Il faut tenir ferme si nous arrivons dans un temps de l'histoire tout à fait particulier. Et il faut tenir ferme, se rappeler que Jésus est avec nous tous les jours, cela jusqu'à la fin du monde, vous le croyez?
Amen.
Comme ce n'est pas encore la fin du monde demain. Eh bien, nous pouvons être sûrs qu'il est encore avec nous et il sera encore avec nous. Je vais vous donner quelques nouvelles de ma santé. Vous savez que suite à des contrariétés excessives, j'ai eu des problèmes et ça s'est tourné en cancer. On a découvert ça en décembre l'année passée, le 1er décembre, je crois. Et on a lutté dans la prière, j'ai fait tout ce qu'il fallait aussi. Point de vue radiothérapie, chimiothérapie, enfin voilà, et plein de gens ont prié partout dans le monde et en quelques mois, eh bien, on s'est débarrassé de cette tumeur. Alléluia, gloire à Dieu. Mais vous savez, quand on a un truc comme ça, il faut être suivi. Alors, la dernière fois que j'ai vu mon oncologue, c'était au mois de juillet, je suis monté à Chartres et là, elle m'a dit, monsieur Janton, vous êtes en parfaite santé, il n'y a plus rien. Et puis elle m'a recommandé d'aller voir dans la région là où nous sommes un autre oncologue afin que je ne fasse pas 650 km chaque fois pour aller la voir. Et j'ai rencontré avec Michou, nous sommes allés, j'ai rencontré cet oncologue qui m'a dit, monsieur Janton, vous êtes vraiment en parfaite santé, c'est extraordinaire, vraiment, ils sont tout contents. Quand on voit des cas comme le vôtre, on est vraiment content. Gloire à Dieu. Je sais que les médecins font des choses fantastiques, ils soignent, mais c'est Jésus qui guérit. Amen. Alors vous qui êtes souffrant, peut-être qui êtes malade, ne méprisez pas ce que Dieu a donné aux hommes qui, et aux femmes qui ont le pouvoir de soigner, d'aider. Et ensuite, Jésus pose sa main. Parce que la maladie, c'est quelque chose, c'est une vie qui vient pour vous tuer. Pas toutes les maladies, hein, il y a des maladies. Il y a des maladies plus bénignes. Mais ça, par exemple, le cancer, c'est vraiment quelque chose de mort. Et là, le diable a essayé de se débarrasser de moi, mais il ne m'a pas eu. Je suis encore là pour l'embêter un petit moment. Amen. Et donc, voilà. Tiens, une bestiole. Et donc, voilà, il faut se donner toutes les chances. Et il ne faut pas rester prostré. Et non, il faut se battre, et je vous encourage, vous, si vous souffrez, eh bien, il faut vous battre. Et j'ai reçu un très bon témoignage aussi de notre sœur Kawette du Canada. Je pense qu'elle va venir nous trouver un séjour. Elle m'a écrit, elle a aussi eu une rémission totale. Que Dieu soit béni. Amen. C'est des bonnes choses, vous voyez, il faut pas mépriser la médecine. L'intelligence est un don de Dieu, et il a donné à certains ce pouvoir de d'être suffisamment intelligent pour pouvoir fabriquer des appareils ou des produits qui peuvent vous aider. Alors évidemment, je sais bien, tout le monde n'est pas pour la chimio, tout ça. Mais bon, moi, en tout cas, je fais ce qu'on m'a dit de faire avec beaucoup de respect pour ces gens, ces hommes, ces femmes. Et puis par derrière, je fais prier partout, hein. Et tous les frères et sœurs ont prié et m'ont entouré. Et ça a été une bonne, belle victoire. Donc voilà, le prochain rendez-vous en janvier pour voir où ça en est. Mais du coup, bon, c'est une visite de routine, monsieur Janton. Une visite de routine. Bien, ce matin, on va lire, je voulais quand même vous le dire parce que je sais que vous m'écoutez, vous m'aimez bien. Alors voilà, je vous raconte un peu ma vie. Matthieu chapitre 28, on va lire ce matin, verset 19. C'est les dernières paroles de Jésus selon Matthieu. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus, je te prie de bénir ces paroles dans nos cœurs, de nous aider à comprendre quels sont nos privilèges, mais aussi quels sont nos devoirs. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Voilà. Et quand Jésus est né, c'était un nourrisson. Mais l'Esprit de Dieu qui était en lui était l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Il était grand, il était puissant, il était déjà Dieu parmi nous, mais sous la forme d'un nourrisson. C'est-à-dire que le bébé ne pouvait pas encore manifester Dieu dans sa plénitude, parce que Dieu a créé les choses comme ça, il y a de l'ordre, et il y a un temps pour toute chose. Hein, c'est pas seulement une très jolie chanson de Sylvie Vartan, c'est surtout un texte des Écritures. Hein, tout ici-bas tourne, 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 il y a un temps pour chaque chose, un temps pour haïr, un temps pour aimer, un temps pour construire, un temps pour détruire. Vous connaissez ça? Eh bien, il y a eu un temps pour que Jésus soit Dieu parmi nous, avec nous, complètement avec nous, mais bébé. Et de même, quand l'Église est née, le Saint-Esprit qui était en elle était tout puissant, mais les apôtres, ben, ils avaient, c'était pas tout à fait la même chose, ils étaient balbutiant très souvent, hein. Ils avaient des trucs à régler, ils n'étaient pas très au clair au sujet par exemple de la circoncision, au sujet des non-juifs, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux, et puis il y avait des problèmes dans l'église. Maintenant heureusement il n'y a plus du tout de problème dans les églises, ça va. Enfin quand même c'était une église balbutiante, et c'était le nouveau corps de Jésus, mais ce corps n'avait pas encore la maturité. Il n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui pour se manifester comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Par exemple, est-ce que vous imaginez que l'apôtre Paul n'a jamais lu le livre de l'Apocalypse ? Ça fait quand même drôle de penser ça. Bon, ça fait bizarre, hein, mais c'est vrai. Et ils n'avaient pas le Nouveau Testament, ils avaient des lettres. Parmi les lettres, il y avait des fausses lettres, de faux apôtres. C'était un balbutiement, tout ça au milieu de persécutions. C'était difficile. Et c'est pourquoi je vous disais il y a quelques jours que les gens qui vivent à notre époque ont été gardés dans le passé éternel pour pouvoir paraître en ce jour qui est un jour tout à fait particulier, une époque tout à fait particulière, en particulier pour les juifs et pour les chrétiens. Parce que comme le péché doit arriver à son comble, eh bien il faut aussi que la sainteté, c'est-à-dire la mise à part du peuple de Dieu, n'est-ce pas, le tri, arrive à son sommet, à sa maturité. En ce moment, Dieu est en train de trier. Alors, les églises qui sont secouées dans tous les sens, ça c'est partout, mais absolument partout. Les catholiques se plaignent, oui, on est attaqués, tout. Oui, ben oui. Oui, mais il n'y a pas que. Parce que dans l'église catholique, il y a des véritables chrétiens. Dans l'église protestante aussi, chez nous aussi, chez les baptistes aussi, chez les pentecôtistes aussi, chez les mormons aussi, partout il y a des véritables chrétiens, mais tout ça c'est secoué, ça passe au crible pour que le bon soit séparé du moins bon. Il faut que la sainteté, la mise à part, le tri, arrive à son sommet, à sa maturité. L'Église a été semée au concile de... Elle est morte au concile de Nicée, en Turquie. Vous savez que c'était en Turquie, ça, Nicée ? Elle est morte là, en 325. Elle a été massacrée par une organisation politique, c'est Constantin, n'est-ce pas, qui a convoqué tous les évêques de toutes les grandes villes, n'est-ce pas, et parce que c'était quand même bizarre, vous aviez des gens qui apostasiaient, qui disaient n'importe quoi, alors ils étaient excommuniés, mais ils allaient dans la ville à côté, puis on leur dit, mais non, t'es pas excommunié, nous on te prend, et voilà, un peu comme aujourd'hui, hein, un peu comme aujourd'hui, donc Constantin dit, non, non, il faut organiser ça, donc concile. C'était pas dans une mauvaise idée, c'était pas une mauvaise idée, c'était pour organiser, pour que les choses soient claires. Mais en réalité, c'était tellement organisé que, comme disent les Suisses allemands, c'est devenu mort. Hein? Ils sont mourissés, comme ils disent aussi. C'est devenu mort. Donc, voilà. Mais elle a repris vie le 6 avril 1830. Jésus s'est manifesté en envoyant Élie, le prophète, et... Voilà, maintenant vous connaissez, vous avez déjà entendu, vous avez lu aussi sur notre site et vous êtes certainement au courant. Bien sûr, il y a toujours eu des chrétiens entre 325 et 1830, il y a toujours eu des chrétiens et Jésus était avec les siens véritablement toujours aussi. Mais dans ce qu'on appelle l'Église, c'était une grande confusion parce que les prêtrises avaient disparu. Les prêtrises avaient disparu. Je regardais l'autre jour une vidéo d'un jeune frère qui, qui baptisait des gens et disait, il se tourne vers la caméra et dit, mais n'importe qui peut baptiser, si vous êtes croyant, vous pouvez baptiser. Attendez pas que ce soit un pasteur qui baptise. Il n'a pas tort, mais il n'a pas raison non plus, parce que dans l'église, il doit y avoir de l'ordre. Et voilà, donc la prêtrise, vous avez deux prêtrises, vous avez la prêtrise d'Aaron, qui est pour tous les frères et sœurs. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette prêtrise. Imposer les mains malades, baptiser, c'est vrai, donner le pain et le vin, donner les bénédictions, c'est vrai, mais il y a la prêtrise de Melchisédek, c'est-à-dire c'est Jésus qui travaille au travers de ses ministres. La prêtrise de Melchisédek est intransmissible, c'est Jésus. Mais ça, là, c'est Jésus qui travaille au travers de ses ministres, c'est porteur de parole, c'est-à-dire ce ministère, c'est Jésus qui se manifeste pour apporter sa parole, d'accord? Mais ça, ça avait été perdu avec les apôtres. Quand les apôtres sont morts, il n'y avait plus personne pour transmettre ces choses de façon claire. Ça s'est dissipé dans une apostasie. C'était déjà du temps des apôtres, ça ne marchait pas fort, mais alors là, c'était la cata. Alors, il y a quand même toujours eu des chrétiens, mais c'était dans une grande confusion et les chrétiens se retrouvaient isolés. L'organisation de l'Église n'était plus du tout celle du commencement. Cependant, Jésus n'a jamais cessé d'être avec les siens, même si le monde ne connaissait pas les siens. Les gens ne savent pas qui vous êtes vraiment. C'est même écrit dans la Bible, c'est écrit, mais ce que vous êtes n'a pas encore été manifesté, les gens ne savent pas. Si vous dites à quelqu'un, je suis chrétien, il va penser que vous êtes un bon homme, une bonne femme qui va se mettre à genoux devant la Vierge Marie. Voilà, c'est ça pour un chrétien, hein. Dites à un musulman, je suis chrétien, il va dire, ouais, t'es un bouffeur de porc. Ils ne savent pas ce que vous êtes vraiment. Pour agir ici-bas, Jésus a besoin d'un corps, son Église. Alors, chacun est membre de son corps dans l'Église, et Jésus ne peut pas exprimer l'étendue de sa sagesse, de son amour, de sa puissance, sans passer par son corps qui est l'Église. Quand je dis « peut pas », il pourrait, mais il ne veut pas. Il a fait les choses de cette manière-là. C'est au travers de vous qu'il veut passer. Il ne veut pas passer comme ça, d'une façon n'importe comment. Il veut que ça se passe au travers des siens. Alors l'Église de Jésus-Christ n'est pas une organisation humaine. L'Église de Jésus-Christ n'a pas d'inscription à la préfecture. L'Église de Jésus-Christ est composée des vrais croyants. Point barre, c'est tout. Nous n'avons pas d'étiquette. L'autre jour, quelqu'un me disait, oh, le signe de la bête, faut pas prendre le signe de la bête, c'est la puce. Vous savez, on va vous injecter une puce et tout. Ça, c'est à la mode depuis quelques dizaines d'années, cette idée-là. Mais la vérité biblique, c'est pas ça. Le signe de la bête, c'est de prendre un autre nom que le nom de notre époux. C'est de prendre un nom de blasphème, comme catholique, protestant, luthérien, calviniste, baptiste, mormon, tout ce que vous voulez. Prendre des noms comme ça sur vous, c'est se prostituer, c'est tromper votre époux. Vous ne devez porter qu'un seul nom. Sinon, vous avez une marque qui n'est pas celle de Jésus. Est-ce que c'est clair? Il faut le dire maintenant, je ne dis pas que la puce, c'est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je dis, c'est pas ça la marque de la bête. Ça, c'est le diable qui distrait les chrétiens avec cette histoire-là et qui les fait flipper sur un truc. Mais c'est pas ça la marque de la bête. La marque de la bête, c'est de porter un nom. Bonjour madame, qu'est-ce que vous êtes chrétienne? Oui, je suis catholique. Bonjour madame, vous êtes chrétienne? Oui, je suis pentecôtiste. Non, je suis madame Jésus. Mon nom, c'est Jésus. Le nom de mon époux, c'est Jésus, donc mon nom, c'est Jésus. Amen.
Amen.
Voilà, c'est bien. Bon, ces vrais croyants n'en sont pas tous au même point dans la connaissance de Dieu ou dans la connaissance de sa puissance, mais ils sont authentiques avec ce qu'ils ont reçu de Dieu. Dieu ne va pas les punir de ne pas avoir ce qu'ils n'ont pas, de ce qui n'aura pas été donné. Il faut être logique. Et vous avez des gens qui n'ont pas reçu la même chose que nous, et nous, il y a des choses que nous n'avons pas reçues la même chose qu'eux. Mais maintenant, pourquoi se chicaner? Pourquoi dire « tu ne crois pas la même chose que moi, donc tu es du diable, tu es démoniaque, t'es... » C'est infantile, c'est stupide, c'est charnel. C'est pourquoi, je vous ai toujours dit, il y a des vrais chrétiens partout, dans toutes les organisations nommées Église, mais aussi Il y a des véritables enfants de Dieu qui vivent tout seuls, sans fréquenter des organisations humaines nommées Église. Mais je ne dis pas qu'ils ont raison. Je ne dis pas qu'ils ont raison, parce que quand même, c'est Jésus qui construit son Église, et c'est bien de fréquenter des chrétiens. Vous voyez, là, on n'est pas très nombreux, mais on est des frères et sœurs, on se connaît, on s'aime, on fait des choses ensemble, on a un seul cœur, une seule âme, on a un seul but, on vit ensemble, et ça, c'est l'Église. Et je dis que c'est dommage que ces gens restent tout seuls dans leur coin. Hier, je parlais avec un homme, il m'a dit... Il y a un prophète qui m'a dit, c'était une trentaine d'années, tu as un don de guérison. Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu en as fait? Jusqu'à maintenant, rien. C'est grave. C'est grave. Et s'il était dans l'église, il pourrait manifester, si vraiment il a un don de guérison. Mais tout seul, ben rien. Vous voyez, il y a une confusion, il y a une grande confusion. Alors je ne dis pas que ce n'est pas des chrétiens, je dis simplement que ce n'est quand même pas tout à fait... normal, c'est bien quand on est chrétien de fréquenter d'autres chrétiens, de se réunir pour louer Dieu, pour chanter des cantiques, c'est ce que Jésus faisait avec ses disciples, et puis aussi pour écouter la parole qui est annoncée par ceux qui ont le ministère qui est confirmé. Alors Jésus avec les siens, il est toujours avec les siens, et cela jusqu'à la fin du monde. Et puis après aussi, j'espère, bien sûr, il sera toujours avec nous. Pour nous, nous avons eu la révélation que Jésus-Christ veut une église communautaire. Mais c'est quelque chose que nous avons compris en 77, que nous vivons depuis 1977, et nous avons compris que nous devions vivre comme c'était à Jérusalem, mais aussi comme c'était au temps des apôtres dans les nations. Hein? La Bible nous dit que... Il dit « Saluez l'église qui est dans la maison de un tel, saluez l'église qui est dans la maison de un tel ». Alors, dans la tête des chrétiens d'aujourd'hui, ils voient ça avec leur idée. Ils disent, ben tiens, dans la maison d'un tel, dans le garage, il doit avoir fait une église. Non, c'est pas ça. C'était quelqu'un qui avait une maison, et puis il avait une dizaine de personnes avec lui, puis c'était l'église dans la maison d'un tel. C'était une communauté, c'était des petites communautés. Il n'y avait pas une communauté de 4000 personnes à Jérusalem. Il y avait plusieurs communautés, et ça faisait 4000 personnes qui vivaient en communauté. Voilà, mais ça, les chrétiens ne comprennent pas, ou font semblant de ne pas comprendre, je ne sais pas. Donc, nous avons compris que nous devions vivre en communauté, mais nous avons compris que nous devions vivre la vie communautaire qu'il vivait au début, mais en mieux. En mieux. Il le faut, parce que comme Christ a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi, il est normal que l'Église actuelle fasse des choses plus grandes que ce qu'elle faisait il y a 2000 ans. S'il nous est dit qu'on peut faire des choses plus grandes que Jésus, à combien plus forte raison on peut faire des choses plus grandes que l'Église primitive, non? Ça me paraît logique, c'est pas de l'orgueil, ça me paraît logique. Et nous devons avoir cette perspective-là. Et nous ne devons pas cesser de diffuser la lumière par tous les moyens que nous avons à notre disposition. Par exemple, eux n'avaient pas Internet. Donc, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout du monde. D'ailleurs, le bout du monde, il ne le connaissait pas, il n'avait pas encore été découvert. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Si vous réfléchissez, il y a beaucoup de choses comme ça. L'évangile était autour de la mer Méditerranée à leur époque, et puis après ça a grandi, mais maintenant, on est partout. Hein. C'est magnifique. Mais ne nous berçons pas d'illusions. Ce corps collectif doit faire des efforts pour aider l'Esprit du Maître à se manifester au travers de lui. Et quand je dis qu'on doit faire des efforts, ce n'est pas simplement des efforts dans la prière, mais c'est aussi mettre la main au porte-monnaie et faire des dons afin que les serviteurs de Dieu puissent aller prêcher l'Évangile. Là, je pars au mois de janvier. Dans le site Révélation Bible, vous avez la possibilité d'envoyer un don, ne serait-ce que 10 euros. Si vous êtes 1000 à envoyer 10 euros, vous vous rendez compte? Mais vous dites, ah non, 10 euros, c'est ridicule. Non, ce n'est pas ridicule. Non, ce n'est pas ridicule. Faites des efforts pour que la lumière soit diffusée. C'est votre responsabilité aussi, c'est une façon de faire qui est valable, qui a toujours été. C'est le nerf de la guerre, hein. Ça a toujours été, c'est comme ça. Et les chrétiens qui disent « Oh là, l'argent, oui, bon, bah, essayez de vivre sans argent, faites vivre l'Église sans argent. » C'est pas cool, il n'y a rien qui vit sans argent, il faut ça. Alors, Jésus agit avec plus de puissance aujourd'hui qu'au commencement, quand on lit les actes des apôtres, on dirait qu'il y a des miracles toutes les deux minutes. Mais si vous lisez attentivement, vous allez vous apercevoir que ce n'était pas vrai, c'est pas comme ça, c'est passé du temps. Mais aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de missionnaires dans le monde. Mais c'est fou le nombre de missionnaires qu'il y a dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de conversions, il n'y a jamais eu autant de miracles que depuis que Jésus a rétabli son église le 6 avril 1830. Jamais. C'est extraordinaire. Ceux qui ne savent pas, c'est parce qu'ils perdent leur temps sur YouTube à regarder des âneries au sujet des extraterrestres. Il faut chercher là où ça se trouve. Il faut chercher là où ça se trouve. Aujourd'hui, alors que Jésus s'apprête à revenir pour enlever les siens, pour enlever son épouse, nous avons donc des devoirs. C'est à nous de renforcer le corps de Christ dont nous sommes les membres pour que son Église continue à travailler puissamment dans ce monde. C'est à nous avec les talents que nous avons. On n'a pas à sentir s'il faut le faire, si on peut le faire, il faut le faire. Si vous avez un talent, mettez-le à la disposition de l'Église de Jésus-Christ. N'attendez pas à vous sentir poussé. Ça, c'est des niaiseries charnelles. « Ah oui, mais moi, je ne me sens pas poussé. » Ça, c'est de l'infantilisme spirituel. C'est des excuses. C'est des excuses. Souvenez-vous, au moment de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ça signifie une chose claire, c'est qu'il n'a jamais quitté ce monde en réalité. Il n'a jamais quitté ce monde. Il est toujours là, mais sous une forme différente. Et quand il était là sur la terre, il avait un trésorier. Et quand il était là sur la terre, il y avait des femmes qui donnaient de l'argent. C'est ce que la Bible écrit. C'est ce que la Bible dit. Il devait aussi avoir des bonhommes qui donnaient de l'argent. Mais c'est écrit qu'il y avait surtout des femmes. Parce que c'est vrai que les femmes sont plus généreuses en général que les hommes. Bon. Ou elles pensent mieux, je ne sais pas. Enfin, il y a un truc. Voilà, donc Jésus ne crachait pas là-dessus. Hein, il ne disait pas, non, c'est moi que je suis Jésus, je suis tout puissant, je n'ai pas besoin. Non. Il prenait et puis il donnait aux pauvres. C'est écrit, non? Quand Judas est sorti pour aller trahir Jésus, les disciples, ils ont tout de suite pensé, ah bon, ben il va, certainement Jésus lui a dit d'aller donner de l'argent aux pauvres. C'était normal. Et aujourd'hui, Jésus est toujours là, mais sous une forme différente. Il est dans un corps qui s'appelle l'Église. Vous avez le corps des pompiers, vous avez le corps de Jésus-Christ qui est l'Église. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Alors la terre d'Israël, c'est pas une terre sainte. Il faut arrêter avec cette histoire. Elle a été souillée pendant plus de 2000 ans depuis que Jésus est venu. Toutes les traces lumineuses que Jésus avait laissées là-bas ont disparu à cause de ces millions de personnes qui ont vécu là-bas, qui ne savaient rien, qui se sont comportées comme des sapajous, qui ont, par leurs actes, par leurs paroles, par leurs attitudes, ils ont fait tant de mal que cette terre a perdu son caractère sacré. Israël a aussi besoin de rétablissement. Mais pas d'un rétablissement tel qu'il est orchestré par le monde à l'heure actuelle. Pas de ça. Vous avez des gens dans l'Église qui veulent rétablir, mais ils rétablissent charnellement dans l'Église. C'est pas de ça. Il faut que ce soit Jésus qui fasse les choses. C'est Jésus qui va rétablir son pays, sa terre, Israël. Et cela, il le fera quand il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, pas avant. Pour le moment, c'est des balbutiements. Pour le moment, c'est la vision d'Ézéchiel qui est en marche, mort, un mort qui est en train de... Les os se remettent en place, les chairs se remettent en place, mais la vie n'a pas encore soufflé dedans. C'est pourquoi je ne peux pas être d'accord avec tout ce que Israël fait. Ni avec tout ce que tous les Palestiniens font d'ailleurs. Je suis plus du côté d'Israël que des Palestiniens, mais je ne peux quand même pas dire amen à tout ce que les Israéliens font. C'est pas vrai. C'est cela. Quand Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers, c'est là que ça sera. Et de même pour l'Église. Tout ce qui est fait de nos jours, c'est encore très charnel et très limité. Très charnel et très limité. Il faut que cela soit fait, mais cela sera accompli, achevé, terminé par Jésus quand il reviendra, premièrement pour enlever son Église, ensuite, 7 ans après, pour régner pendant 1000 ans, et puis après, pour y détruira tout et recommencera quelque chose de nouveau. Tout ça, ça fait partie du rétablissement. Mes frères et sœurs, le seul lieu saint qui existe, il est en vous. Voilà pourquoi je vous raconte tout ça. C'est pour vous faire conscience, vous faire prendre conscience que c'est ça, la terre sainte, c'est vous. Vous avez été fait de la terre. Vous avez été pris de la terre. La terre sainte, c'est vous. Si l'esprit de Jésus demeure en vous, évidemment, alors où que vous soyez, vous serez bien. Et en communion avec ceux en qui il vit aussi. Vous nourrissant mutuellement de votre sagesse, de votre amour, partageant les talents que vous avez. Le reste, c'est charnel. Le reste, c'est charnel. Il faut du charnel, on est dans la chair. Là, par exemple, on a préparé ce matin pour venir pour louer Dieu, ben, on s'est tous lavés, c'est charnel. Hein? Vous êtes tous propres, vous sentez bon, vous êtes magnifiques, bien habillés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un petit déjeuner, c'est charnel. Il n'y a rien de spirituel à prendre une tartine au Cénovis. Pour les Français qui ne savent pas ce que c'est que le Cénovis, c'est un truc suisse délicieux. Mais il n'y a que mon petit-fils et moi qui en mangeons. Parce que les Français en général, ils n'aiment pas ça. C'est fait pour les Suisses. Mais c'est charnel. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je sais que les sœurs, elles ont déjà préparé un repas depuis longtemps. C'est charnel aussi, mais c'est nécessaire. Vous comprenez, il y a des tas de choses qui peuvent paraître charnelles, mais c'est béni à partir du moment où vous le faites dans une bonne intention pour la gloire de Dieu et pour les frères et sœurs, ou pour les gens qui sont dans le besoin dans le monde. Mais quand même, tout a été profané. Tout a été profané en ce moment, tout. Mais vous, ne vous laissez pas profaner. Ne vous laissez pas profaner. Marchez sur ce que le psalmiste appelait la terre des vivants, c'est-à-dire délivrée de la mort, les yeux délivrés des larmes, les pieds délivrés de la chute, marchant devant l'Éternel sur la terre des vivants, psaume 116, 9. Marcher devant l'Éternel, ça ne veut pas dire marcher puis que le Seigneur vous court derrière. Non, non, marcher devant l'Éternel, ça veut dire marcher au-devant de l'Éternel, aller dans sa direction, c'est ça, hein? Mais des fois, il faut préciser, parce que... Ça signifie détacher de la profanation, détacher du malheur qui est la conséquence de la profanation. Et marchant à la rencontre du Père éternel, ayant en vous son esprit de vie. C'est ça, être la terre des vivants. Vous êtes la terre des vivants, c'est vous la terre des vivants. Parce que si l'esprit de Dieu est en vous, la terre où vous marchez, eh ben elle est sainte. Là où tu poses ton pied, c'est saint. Même si c'est une terre qui a été profanée, au moment où tu poses ton pied, paf, c'est saint. Mais après ton passage, il y en a d'autres qui vont venir et ça va de nouveau être souillé. Votre trace va s'effacer, comme la trace de Jésus s'est effacée de la terre d'Israël. C'est toi qui es saint, ce n'est pas même l'endroit où tu es. L'endroit où tu vas prier. Tout ça, c'est encore des conceptions un peu charnelles, mais elles sont nécessaires aussi. On aime bien avoir un endroit pour prier spécial. Mais une chose est certaine, et c'est ça le principal, Jésus demeure avec vous et même en vous. Il pénètre et travaille votre intelligence pour la remplir de sa lumière, même si les autres ne la voient pas. Depuis son trône, il règne. Ne doutez jamais de cela. Il règne. Il vous protège, il vous éclaire, il vous guide parce que vous voulez suivre son chemin. Si vous ne voulez pas suivre son chemin, ah, là c'est une autre chose. Même si ce chemin est difficile, même si c'est un chemin de croix, même si vous avez un caillou dans votre chaussure, même si le diable vous a mordu le talon, vous marchez, vous allez au devant de l'Éternel, vous continuez, vous persévérez. Quand j'étais sur mon lit, là, me demandant si j'allais vivre ou pas, j'ai dit, si je meurs, gloire à Dieu, si je vis, gloire à Dieu. Je ne changerai rien du tout à ma façon de croire en mon Dieu et de l'adorer. Amen. Amen. C'est ça l'important. Il nous revient de garder la communion, de ne pas perdre le contact avec notre Seigneur. Il nous revient d'être en communion avec lui, qui est la source de la vie. Il ne faut pas attendre que ce soit lui qui mette la prise, c'est à vous de mettre la prise, d'être en contact, de vous mettre en contact. Il nous revient de nous élever vers Jésus. Parce qu'il n'est plus là où il a été, il est assis à la droite du Père, et il n'est en vous que si vous êtes en communion avec lui. Si vous êtes conscient de sa présence, c'est-à-dire en harmonie avec lui, si vous êtes conscient de sa présence, vous entrez dans l'harmonie avec ce qu'il veut, avec ce qu'il veut aujourd'hui, pas avec ce qu'il voulait il y a 3000 ans en arrière. Acceptant d'être ce que vous êtes et marchant de progrès en progrès au rétablissement de l'Église. Vous devez accepter que vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes souffrant, vous êtes malade. Acceptez, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tant que je peux prier pour être guéri, eh bien je prie pour être guéri, mais je ne me révolte pas, vous voyez. Si vous passez par des moments difficiles, point de vue argent, la même chose. Acceptez. Dites, Seigneur, que ta volonté soit faite, je ne me révolte pas. Mais rien ne vous empêche de prier pour que Dieu vous donne et de semer pour pouvoir récolter un peu. On sème, on récolte toujours ce qu'on sème. Et si vous semez de l'argent, je vous garantis, vous n'avez pas récolté des bananes. Vous allez récolter de l'argent ou des bananes que vous allez pouvoir vendre. Enfin, de toute manière, si vous faites quelque chose pour l'œuvre de Dieu, Dieu fera quelque chose pour vous, c'est sûr. Il ne vous laissera jamais parce qu'il est avec ceux qui sont avec lui. Nous ne sommes pas où nous ne sommes plus. Là, en ce moment, je suis là, je ne suis pas ailleurs. Mais votre témoignage, notre enseignement, tout ça, c'est dans les régions pures de la terre. Ça reste. Où sont ces régions ? Premièrement, où vous êtes, et là où sont ceux qui vous ont écouté et qui ont aimé ce que Jésus a dit au travers de vous ou ce que Jésus a fait au travers de vous. Hier, je regardais des photos de Raphaël, le gitan, l'homme qui m'a emmené au Seigneur. Il est parti vers le Seigneur, là, il est décédé, mais il n'est pas parti de mon cœur. Ce qu'il m'a dit, ça reste toujours là. Et tant que je vivrai, ça restera là. Et comme je vous le partage, ça restera en vous. C'est ainsi que nous sommes aussi environnés d'une multitude de témoins que l'Église primitive n'avait pas. Elle avait moins que nous, dans ce domaine-là aussi. Nous avons des témoins, une multitude de témoins, des martyrs, des gens qui ont vécu, et nous le savons, il y a beaucoup de gens qui sont morts pour Jésus-Christ à l'époque de l'Église primitive, mais qui ne savaient pas qu'il y en avait autant. Ils pensaient qu'ils étaient une dizaine dans leur bled. Vous comprenez? Parce qu'ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas la télévision qui leur disait les choses. Puis ils entendaient parler, mais ils n'étaient pas sûrs que. Nous sommes enrichis de ce que tous ces hommes, ces femmes, ces enfants ont vécu, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont souffert, de ce qu'ils ont vaincu. On est enrichis de ça, mais il faut être en communion avec ça. Il faut s'en souvenir, il faut lire à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'on lit le livre? Le livre de Mormon, c'est une bonne chose, mais il y a des livres aussi qui expliquent comment ils ont fait, comment ça. Mais c'est très intéressant de lire ça, parce que c'est l'histoire de vrais hommes, de vraies femmes, de vrais enfants, des vrais gens, comme on dit aujourd'hui. On ne peut pas balayer de la main ces choses-là en disant « c'est une secte ». C'est des gens qui ont souffert atrocement de la part de religieux. Évangélique, baptiste. Il n'y avait pas encore les pentecôtistes à l'époque. S'il y avait les pentecôtistes, ça aurait été pire encore. Ils ont souffert. Il y en a qui ont été assassinés. Mais ils ont tenu ferme. Il faut lire tout ça. Il faut respecter l'histoire des anciens. Même s'ils ne font pas partie de votre religion. Quel orgueil de penser que votre religion, c'est la seule qui est la bonne. C'est de l'orgueil spirituel, de charnel. Quand Jésus était sur la terre, il travaillait. Il continue à travailler aujourd'hui au travers de vous qui aimez sa personne, son enseignement, ses exigences et son avènement, son retour. Si vous aimez tout ça, alors Jésus travaille avec vous. Il disait « Mon Père travaille et moi aussi je travaille ». Est-ce que vous pouvez dire « Moi aussi je travaille » ? Le travail divin, il est sans interruption si vous ne travaillez pas. Il y en a d'autres qui travaillent. Mais un jour, il y aura des comptes. Les comptes seront faits. Et il dira, mais qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Je t'avais donné des talents, qu'est-ce que tu en as fait?
Je ne me sentais pas poussé.
Le travail divin est sans interruption. Il est continuel. Il participe à toutes les activités inspirées par la lumière, par l'amour, par le sacrifice. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, chaque fois que nous, ici-bas, sur la terre, nous mettons à la première place le désir de nous perfectionner pour contribuer à l'avènement du royaume de Dieu, eh bien, nous habitons avec Jésus sur la terre des vivants, c'est-à-dire que notre terre est véritablement sainte et nous habitons avec Jésus dans un corps fait de terre, mais nous sommes en communion, c'est-à-dire qu'il est en nous, nous sommes en lui, on est ensemble, mais pas simplement parce qu'il a dit « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il est avec ses disciples, pas avec tout le monde, avec ceux qui ont ce désir, qui mettent à la première place de se perfectionner, de faire valoir leur talent, de se donner avec un esprit de sacrifice. Osborne disait toujours, l'évangélisation, c'est le travail numéro un de Dieu. Un jour, un homme m'a écrit, me disant, Michel, j'ai fait un livre de théologie, et j'aimerais bien que tu demandes à frère Osborne s'il ne pourrait pas me le financer. Et j'ai écrit à Osborne, et Osborne m'a répondu, il m'a dit, frère, je m'attache à mon ministère. Moi, c'est l'évangélisation numéro un. Je ne veux pas financer des livres de théologie. Il y a d'autres organismes qui le font. Moi, je ne fais pas ça. Dites à ce frère que je suis désolé, mais voilà. Et l'autre frère, le théologien, il a insulté, je les écris, hein, un théologien. Osborne, il a dit, mais des gros mots hein, au sujet de frère Osborne. Tout ça parce qu'il s'attachait à son ministère, l'évangélisation. C'est ce qu'il y a de plus important, mes frères et sœurs. C'est ce qu'il y a de plus important, gagner des âmes pour Jésus. Alors nous gagnons des âmes parmi les vivants et nous faisons tous ce que nous pouvons aussi pour les gens qui sont décédés. J'ai beaucoup d'amis qui m'écrivent, qui sont gentils, là, li, là, là, mais qui ne m'envoient jamais la liste de leurs morts. Jamais. Et ils peuvent bien me dire qu'ils croient en moi, qu'ils m'aiment, que ceci, que cela. Tant qu'il n'y a pas des actes, pour moi, c'est des paroles, des paroles, des paroles. Et... des baratins, c'est des machins, pas de base. Je suis désolé de le dire, c'est comme ça. C'est clair, un jour, il y aura des comptes. Et quand les comptes seront, les livres seront ouverts, vous ferez moins les marioles. Alors, on dira, oui, Michel, tu nous engueules. Bien sûr, c'est à votre salut, c'est pour votre bien. Il faut faire valoir vos talents. Nous habitons avec Jésus sur la terre des vivants. Cette terre, c'est d'abord en vous, qui êtes faite de terre. Vous habitez en vous-même. Vous êtes conscient de votre présence ici-bas et de votre importance ici-bas. Jésus étant en vous, et vous en harmonie avec lui, faisant les choses qu'il demande de faire, premièrement dans la Bible, ensuite par son esprit. Et enrichi par l'enseignement de Jésus et des apôtres, enrichi par l'enseignement d'une multitude de saints d'autrefois et d'aujourd'hui, eh bien, nous sommes à un niveau de conscience supérieur aujourd'hui à ce que nous avions comme conscience hier encore. On progresse, si on ne progresse pas, mais bon, c'est grave. Et nous avons à nous efforcer chaque jour à atteindre ce niveau de conscience en entrant en communion avec Jésus, qui est la lumière du monde, et les membres de son corps qui sont aussi la lumière du monde. Oh, moi je veux seulement Jésus. Ouais, mais Jésus vit dans les autres. Si tu n'aimes pas les autres, là où Jésus vit, comment peux-tu dire que tu aimes Jésus? Il y a un non-sens, c'est la confusion, c'est charnel, c'est débile, c'est quelque chose de, où ils font semblant de ne pas comprendre, c'est pas possible. Alors avant de quitter ses disciples, Jésus avait dit, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Cette joie, elle est en nous. Elle est vécue dans le silence, comme la lumière. Vous entendez le bruit de la lumière, vous? Elle est là, c'est le silence de la lumière. Ce n'est pas une joie qui nous fait sauter au plafond ou qui nous fait rouler par terre, ça c'est encore la chair. Elle est comme la plénitude, c'est indestructible. Elle est en vous, et si vous l'avez perdue à cause de ceci, à cause de cela, on peut des fois perdre notre joie parce qu'on se laisse submerger par un démon ou par des chrétiens charnels qui nous persécutent, on est abattu ou par une maladie qui nous affaiblit ou par un deuil ou par je ne sais quoi. Mais il vous appartient d'aller la chercher, cette joie. N'attendez pas, comme ici, le facteur il passe à midi et demi. N'allez pas chercher votre joie dans la boîte aux lettres. N'attendez pas que ce soit quelqu'un qui vous fasse quelque chose pour que vous ayez de la joie. Non, 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 la joie elle est en vous. Il faut même pas aller la chercher au ciel, il faut aller la chercher en vous parce que c'est là qu'elle est. Il a dit, je vous donne ma joie, vous l'avez. Maintenant, il faut aller la chercher si vous l'avez laissée sous un tas de gravats, si vous avez laissé votre être profané par des chrétiens pas gentils ou par des démons ou par une maladie qui vous trouble ou je ne sais quoi. Et là, votre joie, elle est là, mais c'est à vous d'aller la chercher. Car c'est là qu'elle est enfouie sous le bruit du monde, sous le bruit que fait la chair. Elle est là, et alors il faut aller à sa rencontre. Prenez conscience que vous êtes la Terre Sainte, mes frères et sœurs, et marchez devant l'Éternel à sa rencontre, qui est en vous. C'est en vous. C'est en vous. Amen.
Amen.
Les musulmans, ils ont une Terre Sainte, les chrétiens, ils ont une Terre Sainte, les juifs ont une Terre Sainte. Eh bien, on n'est pas d'accord avec eux. Nous, notre Terre Sainte, on sait où elle est. Que Dieu soit béni et que Dieu les bénisse aussi. Amen.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Thank you.